Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir à Radio Libre en Périgord quelqu'un de très intéressant, qui est une chanteuse professionnelle, qui, vous allez voir, a d'autres activités tournant tout autour du chant. Il s'agit de Mathilde Marodon Cavaillé-Coll. On peut dire que c'est une dame qui voue son existence au chant. Mais d'abord, je voudrais rappeler que Mathilde Cavaillé-Coll, comme son patronyme l'indique, est une parente éloignée de quelqu'un qui a été très célèbre au XIXe siècle et qui a été le plus grand facteur d'orgue, Aristide Cavaillé-Coll, le plus grand facteur d'orgue de France. Elle va nous en parler, bien entendu, mais elle va nous parler aussi de tout ce qu'elle fait, puisqu'elle est chanteuse professionnelle soprane, elle est professeure de chant, elle est maître de chœur également. Et peut-être a-t-elle d'autres activités dont elle nous parlera. Mathilde, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord pour parler dans le cadre de l'émission Tranche de vie. Et est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre ancêtre, nous dire qui était, en quelques mots, Aristide Cavaillé-Coll?
Oui, alors Aristide Cavaillé-Coll, c'était donc pour moi mon arrière-arrière-arrière-grand-père.
Arrière-arrière-arrière.
Voilà, trois fois arrière.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui a vécu entre 1811 et 1899.
Exactement, il est né la même année que Liszt, ou un an après Chopin, si vous préférez, ouais. Un petit peu plus connu, en 1811, et il s'est étalé sur tout le 19e siècle, jusqu'en 1899. Et donc il a été, c'est vrai, un des plus grands facteurs d'orgue français de son époque, en tout cas. Et c'était également quelqu'un qui avait le don de l'invention. Il a également, sa première invention, ça a été la scie circulaire, par exemple.
Ah bon ?
C'est pas de la facture d'orgue, mais dans un atelier où on utilise beaucoup de menuiserie, la scie circulaire, c'est très utile.
Il faut peut-être rappeler...
C'est son premier brevet.
Voilà, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs qu'un facteur d'orgue, en fait, c'est quelqu'un qui sait tout faire.
Des orgues.
Il sait tout faire de ses mains, qui construit des orgues, et par conséquent, comme l'orgue est un instrument extrêmement compliqué, qui doit manier absolument presque toutes les techniques de l'artisanat.
En effet. Et c'était également quelqu'un qui avait un esprit scientifique très développé et qui a participé à la découverte du calcul de la vitesse de la lumière. Puisque on sait ça par les écrits de ses enfants, Emmanuel et Cécile Cavaillé-Coll, qui ont écrit un livre qui s'appelle Aristide Cavaillé-Coll, sa vie, son œuvre. Et Cécile raconte quand elle était enfant qu'elle entendait les discussions des savants dans le salon, qui était en train de construire une machine avec des miroirs qui tournaient, qui faisaient un bruit de sirène. Et cette machine a servi, donc l'autre scientifique, c'était Foucault.
Grand scientifique, oui.
Et donc cette machine a été élaborée avec Aristide Cavaillé-Coll et a servi à calculer la vitesse de la lumière.
Oui. Très bien, formidable. Alors là, on en apprend encore plus.
Pour décrire l'esprit scientifique d'Aristide Cavaillé-Coll. Alors, il a laissé beaucoup de notes sur son travail, où il faisait des études sur l'acoustique, par exemple, sur les bienfaits de la poussière.
Ouais.
Voilà, vous avez peut-être remarqué, quand on balaye une pièce, on passe l'aspirateur, après, ça ne sonne plus pareil.
Voilà. Ah, mais non, je ne l'avais pas remarqué.
Les bienfaits de la poussière sur l'acoustique.
Mais maintenant, je serai beaucoup plus attentif quand je ferai le ménage.
Concernant plus directement l'orgue, il a inventé aussi des avancées technologiques qui sont encore d'actualité.
Ah,
donc,
oui.
Par exemple, la pédale expressive, la boîte expressive. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire que dans l'orgue, les tuyaux sont enfermés dans un meuble en bois. Et ce meuble en bois, il a eu l'idée de faire des volets tournants.
C'est ce qu'on appelle
le buffet
d'orgue. Le buffet,
voilà.
Oui, le buffet d'orgue.
Il a eu l'idée de faire des volets qui peuvent pivoter. Et quand l'organiste actionne une pédale, il peut ouvrir plus ou moins ses volets pour que le son s'échappe de l'instrument avec plus, de manière plus ou moins directe. Donc ça, c'est la boîte expressive qui permet de faire des nuances sans changer de registration. Parce qu'à l'orgue, on choisit les registrations, donc on choisit au moment où on joue quelle rangée de tuyaux va être appelée oui. par le son,
oui,
produit avec le clavier manuel ou pédalier. Oui. Normalement, à l'intérieur d'une même rangée de registres, d'une même rangée de tuyaux, on ne peut pas faire de différence de son plus doux ou plus fort. Mais avec la boîte expressive, on peut. Voilà une grande invention de Cavaillé-Coll.
Alors, on va revenir à l'orgue. Oui. Mais à la fin de cet entretien. Et maintenant, j'aimerais que vous nous disiez comment vous êtes venu. Alors, évidemment, apparemment, le virus de la musique s'est transmis de génération en génération.
Oui.
Et vous-même, comment êtes-vous arrivé au chant et à la musique ?
Alors moi, j'étais dans ma famille, ma mère étant prof de piano, mon père aussi, et ma mère est organiste. J'étais un petit peu, on va dire, baignée de musique. Donc je faisais mes devoirs en écoutant, dans une pièce, mon père jouait du piano, dans une autre, ma mère jouait de l'orgue. Mon frère, c'était plutôt de la techno à l'étage supérieur. Mais bon, ça faisait un mélange qui préparait mon oreille sans doute à la musique contemporaine. Et donc, j'avais toujours de la musique dans la tête, toujours des petites mélodies qui passaient dans ma tête. Et je fredonnais pour moi-même, bouche fermée au départ, parce que j'aimais bien cette petite vibration qui m'accompagnait.
À partir de quand est-ce que vous avez...
À partir de quand j'ai commencé à chanter pour les autres. Alors, il y a eu quelque chose qui a été décisif, c'est qu'à une messe de Noël, ma mère m'a proposé de chanter « Douce nuit ». Oui. À la messe de Noël, voilà, avec un micro, parce que j'avais une toute petite voix, j'étais enfant, j'avais
peut-être 6-7 ans. Et tout ça se passait à quel endroit ?
À Trouville-sur-Mer, où ma mère est organiste.
D'accord.
Je suis originaire de Normandie.
D'accord. D'où le conservatoire de Caen, voilà. l'Alençon. Voilà. Après,
Et alors, à cette occasion, j'ai découvert le pouvoir de la musique et de la voix sur les émotions, et qu'on pouvait partager ces émotions. Ça a été vraiment une révélation, parce que je me souviens que moi je n'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, tu chantes douce nuit, je chante douce nuit, timidement, je fais ma petite chanson. Et puis après, il y a eu des gens qui sont venus me voir, et je me souviens d'une dame, une vieille dame, qui était émue aux larmes. Et...
Donc c'est comme ça que vous êtes arrivée au chant.
Oui,
vous étiez baignée dans la musique, vous êtes arrivée au chant.
Ouais, il y a eu ça.
Vous-même, est-ce que vous êtes instrumentiste ?
J'ai plusieurs fois débuté le piano, ayant l'habitude d'entendre le piano bien joué. C'est assez difficile d'être débutant soi-même, parce que moi je trouve que les débutants en piano ont souvent la chance de ne pas se rendre compte déjà que ce qu'ils font, c'est pas terrible, et qu'il va leur falloir des heures par jour pendant des années avant de commencer à avoir un beau son et pouvoir faire quelque chose... que moi j'appelle satisfaisant. Donc je me suis plusieurs fois mise au piano, puis je me suis découragée à chaque fois. Et vraiment, le chant, c'était ma manière à moi de m'approprier la musique. Oui. La danse aussi.
J'avais accédé à la musique plus facilement.
Voilà, ma manière
chant.
À moi de vivre la musique, oui. c'était
est-ce
chanter,
que c'est
c'était
parce
naturel.
Est-ce que vous avez vu votre mère souffrir ou bien
non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est quand moi je me mettais au piano, je n'aimais pas ce que j'entendais, parce que j'avais dans l'oreille quelque chose d'un son d'une main qui a travaillé pendant des années et des heures par jour. Et je savais qu'avant d'arriver à avoir ce beau son, il allait me falloir beaucoup, beaucoup de temps et ça m'a découragé.
Et alors
j'utilise le piano après comme instrument de travail.
Alors une question complètement à côté, mais qui me taraude, puisque je suis un illité très musical moi-même. Est-ce que vous étiez forte en sciences, en mathématiques
Moi, j'avais assez l'esprit scientifique, oui.
Ah, oui.
Après, je n'ai pas choisi la filière scientifique, mais j'ai plutôt...
Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour
faire de
pour
la musique,
s'attaquer à la musique ?
Alors là, je ne sais pas du tout. Non, je pense que ce n'est pas indispensable. Il paraît que ça va un peu ensemble. Le rythme, c'est des proportions de temps.
Oui.
Le son, c'est des vibrations. Donc, il y a quelque chose de très logique. Mais est-ce qu'on a besoin d'intellectualiser tout ça pour le vivre ? Je ne suis pas sûre. Pour moi, il faut surtout être émotif et avoir envie de partager ses émotions. Pour la musique,
c'est ça qui prévaut plutôt que la...
Ouais, et puis savoir écouter.
Une espèce de rationalité de l'esprit.
Oui, je ne sais pas. Je pense que chacun aborde la musique de sa manière. Au niveau des élèves, je vois qu'il y a certains élèves qui ont besoin de tout, qui sont très cérébraux et qui ont besoin que tout soit expliqué par le menu. Et il y en a d'autres qui préfèrent entendre un exemple ou une image et faire reproduire. Voilà.
Quand même, la composition, c'est autre chose.
La composition, oui, je pense qu'il faut un esprit rationnel. Mais...
Alors, de la messe de minuit.
Comment on arrive à devenir chanteuse?
Comment êtes-vous arrivée à devenir chanteuse?
Alors, il y a eu une autre chose qui s'est produite, c'est que mon père a donné un concert avec une chanteuse lyrique et elle venait répéter à la maison. Donc moi, petite, j'ai entendu cette dame qui avait une grande voix. Un moment, toute seule, là, dans le salon, j'ai dit « Comment elle fait, la dame ?» Et j'avais dit à mes parents « Elle ouvre sa gorge et ça fait un grand son qui sort. » Et j'avais fait pareil, tout simplement, par mimétisme, avec l'intuition de l'enfance. J'avais fait quelque chose qui avait un peu surpris mes parents.
Mais vous n'avez pas été plus que ça, poussée par vos parents d'une carrière musicale?
Non, pas tellement, parce que j'avais commencé après le bac. J'avais fait un bac option musique, parce que voilà, ça me plaisait. Puis je chantais au conservatoire, je prenais des cours de chant. Et puis je faisais de l'espagnol à la faculté, donc je n'étais pas partie vers ça. Et puis je me suis dit, j'aime beaucoup la langue espagnole, j'aime beaucoup la littérature, l'histoire de l'Amérique latine, de l'Espagne, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais je ne me voyais pas devant une classe, surtout avec des enfants qui n'avaient pas forcément envie d'être là. Je n'étais pas sûre d'être capable. Enseigner à des gens qui ont envie d'enseigner, ça me plaisait. Pour avoir eu une petite expérience de prof de solfège, formation musicale, on dit aujourd'hui, je sais que ce n'est pas facile, je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire. Donc, d'enseigner à des gens qui n'ont pas envie d'être là, je ne m'y voyais pas. Parce qu'il y en a forcément une proportion qui n'a pas envie d'être là.
Les professeurs de musique sont souvent des martyrs.
Je leur tire mon chapeau. À ce moment-là, les classes de chant commençaient à bien fonctionner. J'avais une professeure, Agnès Mélon, qui a été super pendant toute une année, j'ai travaillé avec elle. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit, et si je m'orientais vers la musique, vers le chant.
Est-ce que ce chemin est facile ou est-ce qu'il est difficile? Est-ce que vous avez rencontré des obstacles imprévus?
Moi, j'ai trouvé ça plutôt difficile, oui. Parce que la voix, elle chemine avec nous et c'est pas seulement travailler ses cordes vocales. C'est tout un ensemble de choses, il faut arriver à être bien dans sa peau. Quand on est adolescent, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai pas trouvé ça facile. Et puis, oser dire aux gens, moi j'étais un peu timide, oser dire aux gens, je veux devenir chanteuse, quand on est en classe de chant, et que bon, on est avec les autres élèves de la classe de chant, il peut y avoir un peu de rivalité. Non, j'ai pas trouvé ça facile. Même oser dire au professeur, je veux devenir professionnel de la musique classique.
Alors, à quel moment et comment l'horizon s'est débouché alors?
Ça s'est fait progressivement, parce que j'ai eu par contre une facilité en plus par rapport aux autres, c'est d'avoir une famille de musiciens. Oui. Donc à toute occasion, je pouvais... au départ, c'était souvent pour des associations à but humanitaire. On organisait un concert et on me faisait participer. Et moi, je disais oui à tout. Donc j'ai eu plein d'occasions comme ça de chanter devant le public. La première fois, c'était pour un téléthon, par exemple, dans le hall de la mairie à Trouville. Bon, ce n'était pas des grandes choses, mais ça permet de se confronter au public et de savoir si on est fait pour ça ou pas. Parce que moi, je me voyais au début enseigner. Je n'étais pas sûre non plus de me voir en face du public, malgré cette bonne expérience que j'avais eue étant enfant.
Oui.
Je n'étais pas sûre quand même d'avoir la personnalité. Je n'étais pas très extravertie. Je n'étais pas certaine de ça.
Mais quand même, les réactions du public, en étant un interprète, vous les percevez. Vous les percevez bien. Alors, à partir de quel moment vous apercevez qu'il y a une réaction du public qui est telle que ça vous booste en vous disant qu'il faut que j'aille plus loin?
Ce qui m'a aidé à trouver ma place en face du public, c'est de me dire on est que des interprètes. C'est-à-dire, on est un maillon de la chaîne entre l'émotion du compositeur à la base, qui a écrit cette musique, ça peut être des siècles et des siècles en avance, et qui a couché sur le papier cette musique, et nous, on est là pour rendre auprès du public ce que le compositeur a voulu donner.
Oui.
Donc on n'est qu'un intermédiaire, en fin de compte. Et ça, je trouve ça, ça facilite les choses.
Oui, mais enfin, intermédiaire, il est peut-être pas toujours également doué, hein, et donc la réaction du public, elle est...
On perçoit ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez magique dans la musique, c'est de voir comment une émotion passe donc du compositeur, peut-être en passant par le texte qu'il a choisi, donc un écrivain, un poète. Comment on mélange notre travail, notre recherche avec les autres musiciens avec lesquels on chante ou qui nous accompagnent, ou l'orchestre, ou le chef, enfin, tous les gens qui participent à cette musique. Et comment on arrive à recréer cette émotion qui passe vers le public, et comment elle passe, comment les gens la reçoivent. Et les gens la reçoivent, qu'ils soient mélomanes, éduqués ou pas. Parce que souvent, les gens pensent que la musique classique n'est pas faite pour eux. C'est vrai que le public de la musique classique est quand même, faut bien l'avouer, pas la grande majorité.
Oui.
Hein. Moi, j'aimerais bien toucher plus de gens parce que je m'aperçois à diverses occasions que la musique classique, elle touche les gens, même qui n'ont pas été éduqués à cette musique-là. Je m'en aperçois, par exemple, des petits-enfants. Petit enfant de 5 ans qui a un peu à tendance turbulent. Je me souviens d'un enfant d'une amie. Là. Devant un concert de musique classique, elle était venue en se disant bon, est-ce qu'il va rester tranquille? Est-ce qu'il va se tenir sur sa chaise? Il était en contemplation du début à la fin. Et puis aussi, des fois, je chante pour des mariages, par exemple. Et là, dans les mariages, il y a des gens qui ne sont pas venus pour écouter la musique, qui n'en ont jamais entendu de leur vie. Enfin... En vrai, je veux dire, parce que c'est quand même pas pareil quand on entend un enregistrement et quand on est dans la pièce où il se passe cette chose-là.
Oui,
c'est
si vous,
voilà, leur, c'est du direct. Et puis
vous leur proposez un programme, effectivement, qui est plus tant à être vers le classique, ou qui est complètement classique, effectivement.
Souvent des Ave Maria, tout simplement. Les gens demandent pour les mariages. Et là, il se trouve des gens qui viennent me voir aussi à la fin, qui disent oh, « j'ai été ému, j'ai eu les poils qui se dressaient et, ». Et des gens qui n'ont jamais entendu chanter en vrai de la musique classique. Je me dis, j'ai réussi à toucher une personne qui ne pensait pas pouvoir être touchée par la musique classique, et ça me plaît.
De là, vous êtes devenu professeur de chant aussi.
Oui, également. Alors, j'ai commencé à enseigner à l'école de musique de Trouville-sur-Mer. Ça a été très, très plaisant. Puis j'ai eu quelques élèves en cours particulier aussi.
Oui, parce que là, vous avez affaire à un auditoire de convaincus, de gens qui veulent faire de la musique.
On a des gens qui veulent chanter. Et puis c'est tout un cheminement de vouloir chanter. Voilà, c'est quelque chose de très personnel, le rapport d'une personne avec sa voix. Donc quand on est prof de chant, on a plein de choses à aborder. Et essayer de faire sortir justement ce que les gens ont à l'intérieur et qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer avec leur voix. Alors évidemment, ça passe par plein de choses techniques qui sont peut-être un peu difficiles, mais une fois qu'on arrive à avoir bien travaillé sa technique et qu'on partage la musique avec d'autres chanteurs, avec le pianiste qui nous accompagne, enfin si c'est un pianiste, et c'est souvent le cas dans les classes de chant, les gens arrivent à sortir des choses qu'ils n'auraient pas imaginées.
Donc tout naturellement, dans le prolongement de cette pédagogie, vous êtes devenu chef de chœur aussi,
ou en même temps même presque
est-ce que vous
avant.
Vous avez été attiré par...
Je me suis trouvé chef de chœur sans l'avoir cherché au départ.
Oui.
Parce que j'avais une amie en classe de chant qui dirigeait une chorale. Quand elle est tombée enceinte, elle m'a demandé de la remplacer pour son congé maternité.
Oui.
Je lui dis, mais moi, je ne suis pas chef de chœur, je n'ai pas fait de formation de chef de chœur, je ne sais pas. Puis j'avais une image un peu autoritaire du chef de chœur, parce que j'avais moi-même chanté dans des chœurs semi-professionnels au conservatoire, et ce n'est pas la même ambiance que le chœur amateur. Et elle m'a dit non, t'inquiète pas, tu vas faire ça très bien, tu leur fais mémoriser leur partie chacun, et puis même si tu les fais pas chanter ensemble, c'est pas grave, quand je reviens de mon congé, je les fais chanter ensemble. Alors j'ai fait ça, effectivement, ça m'a bien plu. Puis évidemment, quand on a fait travailler à chacun sa voix séparée, on a envie d'entendre ce que ça donne avec tout le monde. Donc je dis je vais faire la gestuelle, je la connais, quand je vois mon chef de chœur me diriger, je sais comment il fait, je sais battre une mesure, donc je me lance. Et puis, j'ai appris en le faisant.
Il ne faut quand même pas seulement de l'enthousiasme que vous avez, puisque je vous ai vu diriger, mais il faut aussi quand même de l'autorité. Hein.
Alors, l'autorité, elle vient un petit peu toute seule quand les gens savent que vous avez quand même une compétence musicalement et vocalement. Ils vous font confiance et ils ont envie de produire quelque chose de bien. Donc, j'ai pas besoin de faire de l'autorité avec les choristes.
Alors maintenant, je vais vous demander, puisqu'on est en Périgord et qu'on est... comment vous êtes arrivé comme ça
Comment je suis arrivé en Dordogne
de Normandie, vous retrouvez en Périgord et vous avez des activités, en particulier à Saint-Astier.
Oui, alors ce qui m'a fait arriver à Saint-Astier, c'est tout simplement j'ai suivi mon mari.
Voilà.
Parce que j'ai rencontré par le plus grand des hasards quelqu'un qui était en train de devenir gendarme. Donc et puis qui par la suite s'est passionné pour l'intervention professionnelle. Et maintenant il est instructeur au SNEVJ. Il y en a qui disent CNEVG, donc le Centre National de Formation de la Gendarmerie, qui est situé à Saint-Astier. Donc voilà pourquoi je suis arrivée ici.
D'accord.
Et quand je suis arrivée, j'ai cherché à...
Vous avez recréé...
À retrouver des chorales, et puis des chorales qui cherchent un chef de chœur, il y en a toujours,
ouais.
Parce que l'un arrête, l'autre déménage, donc les choristes qui se retrouvent sans chef de chœur, Ils cherchent des chefs de cœur.
Mais à Saint-Astier, vous avez découvert une association intéressante et qui vous rapprochait de votre aïeul.
Oui, quand je suis...
Puisque c'est cette association des Amis de l'Orgue de Saint-Astier, où il y a un orgue magnifique à Saint-Astier.
Les Amis de l'Orgue de Saint-Astier, alors, quand je suis arrivée...
Et vous êtes devenue présidente.
Voilà, quand je suis arrivée, je voulais rencontrer les musiciens de la région dans laquelle j'habitais, parce que j'arrivais, je ne connaissais personne. J'ai vu qu'il y avait une association des Amis de l'Orgue à Saint-Astier, donc je suis allée les rencontrer. Même, je les ai rencontrés par hasard, alors que j'étais sur un banc pendant que ma fille faisait de la balançoire et j'étais en train de lire. Voilà. Et des gens qui sont venus me parler, je ne sais pas comment. Vous êtes chanteuse, voilà. Et donc, j'ai rejoint l'association qui était en train d'organiser. Ils étaient à la fin de la première. Je suis allée écouter un concert de la première édition du festival Les Musicales du Clocher. Je suis allée écouter un concert d'orgue et cinéma. Et puis l'année suivante, donc, où j'ai rejoint l'association, c'était la deuxième édition du festival. Et voilà, j'ai participé un petit peu, toutes les petites choses qu'il y a à faire pour l'organisation de ce festival qui reçoit des musiciens qui viennent de Versailles. Donc il faut les héberger, les nourrir, voilà, il y a pas mal de boulot. Et puis accueillir les gens lors du concert, voilà. Et voilà. Le président, qui voulait passer à autre chose, il a tout de suite pensé que j'allais prendre sa suite. Et j'ai pris la suite, j'ai pris la présidence de l'association depuis novembre, je crois.
Depuis cette novembre année scolaire, 2025, d'après ce que j'ai vu. Oui,
vous avez trouvé les bonnes informations. Et donc cette année, alors j'en profite pour faire...
C'est une activité annexe qui
c'est
vous gratifie, oui, c'est
annexe,
intéressant.
Oui, qui est très intéressante. Je vois un peu l'envers du décor, parce que là, je ne chante pas. Hein. Je suis vraiment que dans la partie organisation, faire la communication. C'est tout à fait autre chose. Et quand on est musicien, on ne se rend pas forcément compte du travail
qu'il y a derrière,
d'organisation. Oui.
Donc, vous avez un événement à annoncer.
À Saint-Astier, c'est le week-end de l'Ascension. Les 14, 15 et 16 mai à l'église de Saint-Astier, on reçoit les musiciens. Alors le premier concert, le 14 mai, c'est un concert sur Couperin avec 6 chanteuses et 4 instrumentistes. Je croyais 3 au début, mais finalement 4. Et éclairé à la lumière de 1000 bougies. Voilà. C'est une première. On va faire ça.
Ça a déjà eu lieu ailleurs ou c'est...
Oui, ça a déjà eu lieu. D'accord. Il y a des concerts qui sont appelés concerts Candle Light. Donc, ça fait partie de ces concerts.
Très bien.
Alors, du Couperin, des voix féminines, en hommage aux premières femmes autorisées à chanter à la chapelle royale de Versailles. Et c'est l'ensemble Marguerite Louise, dirigé par Gaëtan Jarry. Le deuxième concert, Bach en famille, par l'ensemble Les Surprises. Alors, c'est pas seulement Bach, c'est Bach père, Bach fils.
Tous
ceux qui ont influencé Bach, ceux qui ont été influencés par Bach. Donc, ça fait un programme très varié, avec un chanteur, Marc Moyon, qui chante de la musique baroque pour l'occasion,
donc,
mais qui
ça,
chante
c'est
de tout, qui a un répertoire très
varié. Le vendredi 15 mai, alors.
Voilà, le vendredi 15 mai à 20h30.
Alors que le premier concert, le concert de Couperin, c'est le jeudi 14
voilà,
mai.
Voilà, jeudi 14 mai.
Vendredi 15 mai, donc Bach en famille.
Vendredi 15 mai, donc Marc Moyon, baryton, accompagné par plusieurs instrumentistes. Et puis le dernier soir, alors là on a tout
donc,
un orchestre,
samedi
16 mai, on a un orchestre baroque et un chœur baroque, ils vont être 29, quelque chose comme ça, de mémoire je ne sais plus, mais on est quasiment une trentaine sur scène avec le chef, donc c'est de la musique de Charpentier. Le Tédéum de Charpentier.
Ah oui, Tédéum de Charpentier.
Et Assumpta est Maria de Charpentier également.
Très bien. Donc, on reste dans le 17e.
Tout à fait. On est dans la musique baroque avec les musiciens. Encore l'ensemble Marguerite Louise pour le dernier concert du samedi 16 mai.
Je vais vous poser une question que je pose traditionnellement à nos invités, ou à mes invités plus exactement. Est-ce qu'il y a une vie après le chant, après la musique ? Est-ce que vous avez d'autres passions ? Est-ce que vous arrivez à faire... j'ai cru comprendre que vous étiez mère de famille. Est-ce que vous arrivez à faire autre chose que...
Oui, oui, j'ai une vie plutôt bien remplie, j'avoue. Donc oui, effectivement, j'ai mon mari et ma fille qui a 10 ans, bientôt 11, donc ouais. Je vais bientôt organiser son anniversaire. Et puis à côté de ça, moi j'ai une petite passion personnelle pour les chevaux. Donc c'était encore un rêve de gamine. D'accord. D'avoir un cheval.
Ça, ça vient de la Normandie ou...
Oui, je crois. Oui. Là, ça ne vient pas du tout de ma famille, parce qu'il n'y a personne qui fait de l'équitation dans ma famille.
Très bien.
Mais j'ai grandi dans le Pays d'Auge, donc il y a beaucoup d'élevage de chevaux, beaucoup de haras dans le Pays d'Auge, et c'est des animaux magnifiques.
Voilà, c'est pour ça que...
Voilà. Donc je me suis aussi un peu passionnée pour ça. J'ai un cheval que je vais voir.
Très bien,
voilà,
très bien.
Une pension
très bien.
Pas très loin. Et puis je fais... Alors le petit rapport que je trouve entre la musique et l'équitation, c'est que moi j'aime bien faire du travail en liberté avec le cheval, et c'est le langage non-verbal dans la musique, c'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas le texte, si je chante à des enfants un air en allemand, ils vont quand même comprendre ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de langage non-verbal qui passe dans la musique, et puis avec les animaux aussi.
Oui,
voilà, puis j'ai un chien aussi. Et d'ailleurs, les animaux sont très sensibles à la musique.
Tout particulièrement les chevaux, qui sont des êtres beaucoup plus sensibles qu'on imagine.
Oui, très sensibles. Et mon chien, quand je me mets au piano pour travailler mes morceaux, il se met sous le piano. Et alors ça, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il aime beaucoup chanter.
Ah.
Dès que je pars dans les aigus, il y va aussi de sa voix.
Très bien.
Bon, c'est amusant.
Et votre fille, vous lui avez transmis
ma fille,
le virus.
Oui, elle a aussi le virus de la musique. Elle a toujours chanté. Je l'ai beaucoup endormie en chantant, donc je pense que c'est passé par là quand elle était toute petite. Et oui, elle chante. Alors maintenant, elle chante dans un groupe de rock. Donc c'est pas forcément exactement le même répertoire que moi. Et puis elle joue de la guitare. Au début, c'était guitare classique, maintenant c'est guitare électrique.
Voilà. Très bien.
Et puis on la fait chanter des fois au concert. On lui fait faire le bis. Il peut faire la berceuse de Brahms, par exemple, que tous les enfants connaissent, ou l'air de l'enfant et les sortilèges de Ravel. Voilà, on lui fait faire des petites choses, elle aime beaucoup ça.
Très bien. C'est bien qu'elle reste quand même ouverte à toutes les formes.
Ah oui, elle n'est pas fermée à la musique classique, mais ce qui l'amuse le plus, là, actuellement, c'est la pop.
Ça y reviendra peut-être.
C'est son âge.
Je me demandais si, pour conclure, vous pourriez nous chanter quelques mesures.
Alors, de quoi?
Je ne sais pas, moi, un thème d'actualité, je ne sais pas, le Dona Nobis Pacem, par exemple.
Dona Nobis Pacem, alors c'est quelque chose qui se chante en chœur, oui. Si
je peux essayer de chanter avec vous.
Je teste pour prendre ma bonne hauteur, parce que là, au pif...
Et en tout cas, bon... Si on se casse la figure, ça sera supprimé.
D'accord.
Mais avant qu'on se lance, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis de ce que vous nous avez apporté de fraîcheur et d'intérêt pour la musique qui devrait être un refuge pour tout le monde.
Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona pacem, dona nobis pacem.
Merci encore.
Merci à vous.
Merci encore.